Jean chapitre 10, versets 26 à 30. Jean chapitre 10, versets 26 à 30. Au nom de Jésus. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne mourront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Amen. Sommes-nous des moutons de Panurge, nous les chrétiens, qui suivent bêtement ce que dit notre berger, notre bon berger? En tout cas, c'est ce qu'en pense la plupart de nos détracteurs, ceux qui ne croient pas en Jésus, ou qui n'acceptent pas comme étant le Seigneur. Mais avant que j'entre un peu plus dans le texte, laissez-moi d'abord vous dire ceci. Je ne sais pas pour vous si vous regardez l'actualité, le monde où nous vivons, mais d'après ce que moi je vois, en tout cas, dans les différents médias, la société où nous vivons actuellement n'a jamais été si influencée par toutes sortes de ce qu'on appelle les influenceurs. C'est le mot de l'époque. Influenceurs. Même les gamins aujourd'hui savent bien ce que c'est qu'un influenceur. Sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et les gens suivent bêtement ces influenceurs, même s'ils ne sont même pas des spécialistes, mais ce sont des influenceurs. La publicité, on n'en parle plus. Nous sommes harcelés du matin au soir, dans nos boîtes mails, les papiers, les tracts, dans la rue, sur notre téléphone, tout, harcelé, matraquage médiatique. Rappelez-vous aussi, il y avait ces polémiques à l'époque, au moment des élections aux États-Unis, où les candidats s'accusaient qu'il y a eu des influences des réseaux sociaux dans le comportement de certains électeurs, et j'en passe des exemples. Alors, avant de nous dire que nous sommes des moutons de Panurge, la société, je pense, n'en est pas aussi épargnée avec tout ce qu'ils sont, qu'ils subissent tous les jours. Voilà la tendance, comme on dit. Bon, tout le monde y va. Effectivement, si nous lisons à la lettre ce qui est dit dans ce texte, on a l'impression que cette accusation qui nous est faite semble être juste, je dis bien semble. Et pourtant, le texte montre clairement que suivre la voie du bon berger, c'est-à-dire le Christ, ne va pas de soi comme on le croit. Ça semble être si facile de dire « croire ». À savoir que le verbe « croire » revient deux fois dans ce texte, au verset 26 et 27. Ça veut dire « que c'est quelque chose qui a de l'importance. Donc, croire ici, je dis bien ici dans le texte, je ne parle pas d'une définition de dictionnaire ou de dogmatique, mais de, selon le texte, croire signifie ceux qui font partie des siens, de Jésus. Ceux qui m'écoutent sont mes brebis. Donc, croire, quelqu'un qui croit en Jésus, c'est quelqu'un qui fait partie du clan de Jésus. Voilà, ça veut dire. Et donc, finalement, croire marque l'appartenance à Christ. Si tu dis « je crois en Jésus », cela veut dire « tu appartiens à Jésus ». Et seuls ceux qui font partie de son cercle peuvent entendre ce qu'il dit, peuvent aussi voir ce qu'il doit voir. Tout le monde entend la parole de Dieu. Tout le monde lit la Bible. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit l'Évangile. Ce n'est pas tout le monde qui entend la voix de Jésus. Ils entendent les textes, bien sûr. Mais ils n'entendent pas la voix de son maître. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord être parti de son clan pour l'entendre. Rappelez-vous, quand Jésus a été baptisé, il y avait une sorte de tonnerre. Tout le monde dit « Ah, mais c'est quoi ce bruit ?» Or, Jean-Baptiste avait bien entendu « Voici mon fils bien-aimé. » Les gens ont entendu des tonnerres, des éclats. Jean-Baptiste, il entend clairement la voix du Père. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui puisse entendre la voix du Père. Même chose avec Moïse. Quand le peuple a dit, mais nous aussi, on veut parler directement à Dieu. On ne va plus passer par toi, Moïse. On n'a plus besoin de toi. Y compris la sœur de Moïse se rébellait contre Moïse, Myriam. Tu te prends pour qui ? Nous aussi, on peut parler à Dieu directement. Et Dieu a dit, ok, d'accord. Et Dieu a donné rendez-vous. Il est descendu sur la montagne. Il était en train de parler. Et les gens ont entendu quoi ? Des tremblements de terre. Comme s'ils ont entendu une voix d'une trompette. Et les gens ont eu peur. Et pourtant, Dieu parlait. Vous voyez, Moïse a bien entendu. Et les autres, rien. Voilà croire. Donc c'est à l'image d'une relation intime qui existe entre son berger et son troupeau. Les moutons qui lui appartiennent connaissent et savent faire la distinction de la voix du Christ et la voix des autres bergers. Alors, chers amis, croire n'est pas du tout une mince affaire. Certains pensent qu'il suffirait de croire pour être sauvé. Mais ce n'est pas évident de croire. Nous, ici, aujourd'hui, quand on vous dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts, ça vous fait quoi en vous ? De l'espérance, de l'espoir ? Mais pour certains, quand ils entendent « Jésus est ressuscité d'entre les morts », ils vont vous rigoler au nez. « Tu en es encore là, toi ? Tu crois encore ces bobards des chrétiens, là ?» Et pourtant, c'est le même message. Donc, les enseignements de Jésus ne sont pas compréhensibles par tout le monde. Les enseignements de Jésus ne sont pas acceptés par tout le monde lorsque nous ne sommes pas encore dans son cercle. Il est impossible à l'être humain de vivre et de capter les enseignements de Jésus tant qu'il ne fait pas partie de ses brebis. Car tout ce que Jésus nous donne comme instruction vont à l'opposition de notre raisonnement humain. Et même ses disciples, les disciples de Jésus, ceux qui étaient dans son cercle, avaient encore du mal à le suivre, à le comprendre. En effet, le verbe « croire » parle de lien, si on revient au texte, de relation et non une connaissance intellectuelle ou une compréhension. Et là, j'insiste sur notre dogme protestant. Oui, un enfant, oui, un bébé peut croire, parce que la foi, ce n'est pas une compréhension. La foi, ce n'est pas une connaissance, la foi, c'est une relation. Est-ce que cet enfant peut appartenir à Dieu ? Oui. Qui pourrait dire que cet enfant ne fait pas partie du clan de Dieu ? La foi, ce n'est pas « Ah, j'ai compris, donc j'ai la foi ». Non, c'est l'inverse. Parce que tu lui appartiens, que tu peux le comprendre. Mais tant que tu ne l'appartiens pas, tu ne comprendras jamais ce qu'il va dire. Oui, c'est l'inverse de ce que nous croyons. Rappelons-nous les hommes de foi de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les grands hommes de Dieu comme Abraham, Moïse, tous les grands hommes de Dieu. À 99%, pour ne pas dire à 100% des cas, ils n'ont jamais compris ce que Dieu a donné comme instruction, mais ils ont suivi comme des moutons. Abraham, quitte les terres de tes ancêtres. Va dans les terres que je t'indiquerai. Il ne sait même pas où est-ce qu'il va aller. Il n'a rien compris, mais il dit, bon, j'y vais. Vous voyez ? C'est pas, montre-moi d'abord la carte, où est-ce que je vais aller ? Donne-moi mon adresse, de quoi je vais vivre là-bas ? Qu'est-ce qui m'attendra là-bas ? Ah, j'ai compris, j'y vais. Non. Quitte, pars, et au fur et à mesure, tu comprendras. C'est ça la foi. N'attends pas que tu comprends la chose, et c'est là que tu commences à avancer. Avance. Et au fur et à mesure que tu avanceras, là, tu verras le chemin de Dieu. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Moïse a reçu l'ordre, « Va libérer mon peuple en Égypte. » Vous imaginez, on envoie quelqu'un qui est recherché ou en tête. Sa tête est mise à prix. « Va vers Pharaon. » Avec quoi ? Avec ce bâton ? Pharaon avec toute son armée, ses chevaux, ses chars. Au moins, dis-moi qui tu es, envoie-moi avant que j'y aille. Et Dieu ne lui a pas donné la réponse exacte. Je suis celui qui serai. C'est-à-dire, tu me connaîtras au fur et à mesure que tu avanceras. Voilà ce que ça veut dire. N'attends pas que tu me connaisses à 100% pour que tu y ailles. Non, acceptes-tu de venir avec moi pour cette aventure ? C'est une aventure, bien sûr. Mais tu ne seras pas seul, tu seras avec moi. Voilà la foi, chers amis. Donc, la foi ici, selon Jésus, c'est un lien intense entre Dieu et ses serviteurs. Et moi, je n'ai pas honte qu'on me dise que je suis comme un mouton de parnure, je suis bêtement le Christ. Oui, je ne sais pas où je vais y aller, mais je sais qui est avec moi. Ça, c'est le plus essentiel. Il se peut que tu sauras où tu vas aller, mais tu ne sais pas celui qui est avec toi. Alors là, c'est plus problématique. Je préfère ne pas savoir ce qui m'attend demain. Je préfère ne pas savoir où je vais y aller, mais je suis sûr de qui à qui j'ai mis ma foi. Et lui, il est fiable. De ce fait, croire, c'est appartenir à Christ de façon définitive. Pas temporaire. Tu lui appartiens pour toujours. Sois-en sûr. Ne laisse pas le diable te douter de ça. Et le gage qu'il a donné, c'est sa vie, la vie du Christ qui a été donnée à la croix. Nous sommes en quelque sorte scellés à Christ, collés à Christ pour l'éternité. Regardez bien, je reprends les paroles de Jésus, c'est très fort comme déclaration au verset 28. Qu'est-ce qu'il dit ? Personne ne les arrachera de ma main. Quand Jésus dit « personne », qui pourrait venir devant moi pour dire « celui-là ne t'appartient pas ». Il se peut que les gens vont dire « mais lui, il n'est pas vraiment enfant de Dieu ». Il se peut que le monde entier va te dire « toi, tu ne crois pas en Dieu ». Personne ne l'arrachera de ma main. Personne. Verset 29, « personne ne peut rien arracher de la main du Père ». Il rajoute encore une couche. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans la main du Père, plus la main de Jésus, vous imaginez ? Quelle garantie voulez-vous plus que ça ? Pourquoi tu doutes encore ? Pourquoi tu regardes encore à gauche, à droite ? Pourquoi tu écoutes encore ce qui est autour de toi ? Regarde le Christ qui te dit « personne ne t'arrache de la main ». Et c'est ça qu'il faut garder. Ce verset 29 me fait penser à la prière sacerdotale, la prière que Jésus avait faite pour ses disciples. Je dis bien pour ses disciples, mais pas pour tout le monde. Il a dit ceci dans Jean, chapitre 17, verset 24. « Quant à ce que tu m'as donné, Père, » il s'adresse à son Père, « je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi pour qu'ils voient ma gloire. Celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Avez-vous compris cette belle phrase, cette prière ? Ce n'est pas une phrase, c'est une prière. Jésus avait dit ceci, « Je veux, je souhaite que les miens voient déjà, dès maintenant, la place qui les appartient là-haut. » Et cette réservation-là a été déjà faite avant la fondation du monde. Avez-vous saisi l'impact de cette phrase? Jésus ne dit pas « On verra si tu viendras au ciel ou pas. » Ce n'est pas une loto, le fait d'aller au ciel. C'est une assurance. Ta place, elle est déjà réservée avant la fondation du monde pour ceux qui l'appartiennent. C'est ça, être dans l'éternité de Dieu. Avant que le monde existe, Dieu t'a déjà aimé. Vous imaginez cet amour, c'est un amour qui n'existe pas sur cette terre. L'amour qui existe sur cette terre, c'est un amour conditionnel. L'amour de Dieu, c'est un amour avant même que j'étais conçu dans le ventre de ma mère, il m'a déjà vu, il m'a déjà aimé et il a réservé ma place là-haut. C'est la même chose pour toi. Il est difficile de ne pas penser, quand on écoute cette parole, tout de suite on peut se dire, alors est-ce qu'il y a la prédestination absolue? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été déjà destiné pour le salut avant qu'il naisse? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui était destiné pour la condamnation? Non, ce n'est pas là que Jésus voulait dire. Mais il nous a déjà vus. Il ne nous a pas destinés, mais il nous a déjà vus. Nous n'allons pas faire le débat sur la prédestination ce matin, mais ce qui est sûr, le salut octroyé par le Christ n'est pas une chose qui peut perdre sa valeur en cours de route. C'est là le but. Le salut que Jésus t'a donné ne peut pas perdre de valeur. C'est une valeur sûre, une valeur fiable. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Toutes les valeurs où on a mis les valeurs, que ce soit en dollars, en euros, ça dégringole. Il suffit d'une guerre et tout est remis en question. Il suffit d'un virus et tout le système est, on ne sait plus où aller, quoi faire. Mais le salut dit, ce salut ne dépend pas des circonstances. Il ne peut pas perdre sa valeur. Écoutons ce que Pierre a dit là-dessus, dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 20. « Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rédimés de votre conduite futile, celle que vous teniez de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme par celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde. » Entendez-vous ces mots qui ont de la valeur, pas par des choses périssables. Le sang précieux, sans défaut, sans tache. C'est-à-dire que notre salut est sûr. Le salut qui nous a été donné est solide, imperturbable. Alors ce texte que nous avons ce matin nous invite à dire « Oui, mon salut est sûr. Oui, j'ai déjà le ticket en main. Oui, quand je quitterai cette terre, je sais où est-ce que je vais aller. Peu importe le temps, cela n'est plus important. J'ai le salut en main parce que le Christ m'a dit « Là où je serai, tu seras avec moi. » Tiens bon. Tiens bon à cette parole que le Christ a donnée. Ne laisse personne, ni le diable, ni le monde, ni la société, te faire douter de ton statut d'enfant de Dieu. Amen.